VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Midi à Libreville au Gabon. Au Gabon où les anomalies observées lors de l'élection présidentielle le 27 août 2016 mettent en question le résultat final du vote qui s'est traduit par la réélection d'Ali Bongo Ondimba selon les conclusions des observateurs de l'Union européenne présentées aujourd'hui dans la capitale gabonaise, Anne Alberson.
Les observateurs mettent essentiellement en cause les résultats dans l'une des 9 provinces du Gabon, le Haut-Ogooué, fief électoral d'Ali Bongo, où le président sortant a officiellement obtenu 95,47% des voix pour 99,93% de participation. Il est à noter que les résultats de cette province ont inversé la tendance constatée par la mission sur la base des résultats annoncés par les gouverneurs des 8 autres provinces du pays, souligne le rapport. Le document met en cause ce taux de participation, rappelant que le taux de participation au niveau national sans le Haut-Ogooué s'évalue à 54,24%.
Au Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile dénoncent de multiples violations des droits de l'homme. 8 mois après le déclenchement de la crise électorale le 4 avril dernier, les ONG estiment que les arrestations arbitraires et la torture sont en augmentation dans le pays. Le ministre de la Justice et des Droits humains, Pierre Mabiala, dénonce une exagération des faits.
La République du Congo n'a de leçon à recevoir d'aucun pamphlétaire ni d'aucun maître chanteur alors que... Pendant qu'ils se livrent à de telles manœuvres, le Congo leur offre tous les droits. Le temps des pamphlets et de critiques stériles en matière de droits de l'homme au Congo est révolu. Le Congo avance. Le Congo travaille à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Nul ne réussira à le détourner de cette voie noble choisie par son peuple qui en fait un idéal. Pendant que les pamphlétaires et les maîtres chanteurs passent leur temps à satisfaire les intérêts, il faut le dire, égoïstes des lobbies étrangers.
Le ministre de la Justice du Congo, Pierre Mabiala. En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition appelle à la retransmission en direct des négociations dites de la dernière chance à moins de 10 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Ces négociations qui ont démarré jeudi ont été suspendues le lendemain. Elles doivent reprendre demain mardi et se terminer au plus tard le jeudi 15 décembre 2016. Le rassemblement a annoncé qu'à l'issue des travaux, M. Étienne Tshisekedi s'adressera à la nation quelques jours avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. Le 19 décembre prochain.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Plus de 20 personnes ont été tuées dimanche dans un attentat suicide au camion piégé près de l'entrée du port de Mogadiscio. L'attaque s'est produite à l'entrée de ce port commercial de la capitale somalienne. Le kamikaze a visé un secteur rempli de civils, de porteurs et de petits commerçants, a souligné Ibrahim Mohamed, un officier de la capitale de la police locale. Le groupe djihadiste somalien des Chebab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque sur son compte Telegram. La cible, selon le communiqué des Chebab, était une base militaire située à l'entrée du port. Le groupe affirme avoir fait près de 30 morts. Deux fillettes se sont fait exploser dimanche dans un marché très fréquenté de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins un mort et 17 blessés, selon des témoins. Ce double attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais le procédé utilisé est celui du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, qui a souvent eu recours à des femmes et des jeunes filles pour perpétrer des attaques contre la population. Ghana, maintenant, après son élection dès le premier tour à la présidence de son pays, l'opposant historique ghanéen Nana Akufo-Addo devra se mettre rapidement à la tâche face aux multiples défis qui ont probablement contribué à la défaite du président sortant John Dramani Mahama. Pamela Elengabous, une étudiante congolaise à Accra, parle des défis du nouveau président ghanéen.
Il y a trop de défis à relever. La monnaie qui perd sa valeur chaque mois. Il y a la dépréciation du CDI ici. Il y a l'électricité. L'école coûte quand même cher ici. Il a promis des écoles gratuites. Il a promis ça. Il y a des grands défis à relever. L'économie, l'électricité, le problème d'énergie, le coût de la vie. En somme, ce que les gens disent, c'est quelqu'un d'abord qui a les capacités pour relever les défis. Ensuite, il a beaucoup de connexions avec l'extérieur, les marchés. Voilà, ça va apporter beaucoup d'opportunités au pays. Ça va faire entrer le marché, ça va faire entrer l'argent. C'est ça qu'il a en fait.
Pamela Lengabos, étudiante congolaise dans la capitale ghanéenne. En Gambie, le président sortant Yahya Jammeh va contester en justice les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre. Après avoir reconnu sa défaite, il fait un revirement total. Idriss Fall.
Le parti au pouvoir a annoncé qu'il va saisir la Cour suprême. Cette saisine doit intervenir au plus tard 10 jours après proclamation des résultats. Ce lundi étant férié en raison de la fête musulmane du Mouloud, ce recours devrait être déposé donc demain mardi. La Cour suprême gambienne n'étant pas au complet, plusieurs juges devront être nommés avant qu'elle ne puisse statuer. Vendredi, le président Yahya Jammeh a refait une surprise. Il avait déjà reconnu sa défaite, puis a rejeté la totalité des résultats. Il demande un nouveau vote en assurant que l'intervention des puissances étrangères ne changera rien. Il a aussi prévenu qu'il n'allait tolérer aucune protestation. D'ailleurs, Banjul, la capitale, est quadrillée par des forces de l'ordre. Adama Barrow, le président élu, l'a appelé à accepter sa défaite et à rejeter sa demande pour la tenue d'un nouveau scrutin. Le Sénégal, unique voisin de la Gambie, a été le premier pays à condamner cette volte-face de Yahya Jammeh. Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, a estimé que ce revirement est inacceptable et menace la paix dans toute la sous-région.
Un journaliste algérien critique du pouvoir est condamné en juillet à 2 ans de prison pour offense au président de la République et décédé dimanche. Le journaliste Mohamed Tamalt, âgé de 42 ans, hospitalisé depuis la fin du mois d'août, est mort des suites d'une infection pulmonaire. D'après l'administration pénitentiaire, dans un communiqué, il avait été condamné le 11 juillet à 2 ans de prison ferme et le jugement avait été confirmé en appel le 9 août. Plus de 10 000 civils supplémentaires ont fui les quartiers rebelles d'Alep ces dernières 24 heures pour rejoindre des secteurs sous contrôle gouvernemental selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Parmi les quelques quartiers encore tenus par les insurgés dans la métropole du nord syrien, certains sont désormais vides de population civile, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman. D'après l'Observatoire, les forces pro-gouvernementales ont pris le contrôle lundi matin des quartiers de Sher Saïd et de Saline, contrôlant désormais plus de 90% du secteur que les insurgés tenaient depuis la division de la ville en 2012. Les rebelles sont maintenant assiégés dans un réduit au sud de Alep. Le futur secrétaire général de l'ONU prête serment ce lundi. Le Portugais Antonio Guterres sera consacré à son poste lors d'une cérémonie très officielle à l'Assemblée générale de l'ONU, puis il va présenter aux 193 pays membres ses projets face aux multiples crises mondiales et pour réformer l'institution vieille de 71 ans. Premier ancien dirigeant d'un pays à accéder à la tête de l'ONU, Antonio Guterres prendra la succession du Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier, quelques semaines seulement avant l'investiture du président américain élu Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan du double attentat de samedi à Istanbul s'est alourdi à 44 morts, dont 36 policiers, selon l'agence officielle Anatolie. L'attaque menée près d'un stade de football après un match du championnat de Turquie a été revendiquée par le groupuscule extrémiste kurde TAK, Faucon pour la liberté du Kurdistan, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Elle a également fait 150 blessés. Le précédent bilan était des 38 morts suite à ce double attentat. La police turque a arrêté aujourd'hui plus d'une centaine de responsables du Parti démocratique des peuples pro-kurdes qu'elle dit soupçonnés d'être liés au PKK. 5 hommes et une femme ont été arrêtés ce matin dans le nord de l'Angleterre et à Londres, soupçonnés de préparer un acte terroriste, a indiqué l'unité de contre-terrorisme de la police du nord-est du pays. Ils ont été placés en garde à vue. La directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, Christine Lagarde, est jugée en France pour des négligences présumées qui auraient conduit à un énorme détournement d'argent public lorsqu'elle était ministre de l'économie en France. Au terme du procès qui débute aujourd'hui, elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et puis, l'Union européenne et Cuba ont signé ce lundi à Bruxelles un accord de dialogue politique et de coopération, le premier jalon conclu entre le bloc européen et l'île Castries, qui normalement ainsi, qui normalise ainsi leur relation 2 semaines seulement après la mort de Fidel Castro. Jean-Roger Bion à ce micro, point final à ce journal. Le prochain dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.